Bon, je vais peut-être commencer, disons, pour les gens qui n'ont pas encore regardé l'introduction, je vais peut-être me présenter un peu moi-même. Je suis née en Californie. Il y a un article dans le Figaro que vous allez voir peut-être, la cowgirl et les aristocrates. Disons que j'ai passé mon enfance justement avec les chevaux sur un ranch. J'ai bien sûr un doctorat de l'Université de Virginie, je suis universitaire américaine et je travaille sur cette correspondance depuis 1986. Un travail à plein temps ces 15 dernières années. J'ai l'impression que je vis avec le chevalier de Beaufort et la comtesse de Sabran, que je les connais mieux que je ne me connais moi-même. Je crois que c'est ce qui arrive la plupart du temps pour les gens qui préparent une édition de correspondance. On est obligé de vivre avec les gens d'une façon beaucoup plus soutenue qu'avec n'importe quelle autre étude. On finit par connaître les moindres détails de leur vie. On peut dire, bon voilà, il a pris le petit déjeuner tel jour à telle heure, on me donne une phrase de Boufflers et je peux vous dire, voilà, il venait de faire ça, il est en train de faire ça, c'est peut-être telle année, à telle minute et tel mois. Je ne peux pas faire cela ni avec mes parents, ni avec mes amis, ni avec moi-même. Et puis, j'ajouterai aussi que j'ai commencé aux États-Unis avec l'idée de faire un ouvrage en anglais. C'est-à-dire, j'ai commencé en faisant des traductions. Et j'ai été professeur pendant suffisamment d'années pour vous dire que je peux conseiller à tous les professeurs. Je crois que si on commence par faire des traductions d'un texte, c'est vraiment la meilleure façon d'entrer à l'intérieur d'un texte. Parce que, mon Dieu, qu'il faut réfléchir si on veut communiquer l'essentiel d'un texte à des gens qui n'ont pas la même culture, qui ne savent pas, disons, les événements de la France du XVIIIe siècle, qui ne parlent pas la même langue. Et si on veut faire passer l'essentiel, c'est absolument extraordinaire, je dois dire, le premier contact que ça donne avec des lettres. D'un point de vue littéraire, il y a des textes qui sont difficilement traduisibles. Je veux dire par là que ce n'est pas une question de l'orfèvrerie des mots qu'il faut réinventer de toute façon, mais de leur sens profond. Les textes qui passent ont le plus souvent quelque chose d'universel. Les lettres de Chevalier de Boufflers et de la comtesse de Sabran passent, je le sais par expérience. Ce soir, je vais vous raconter leur histoire. Je vais aussi vous présenter quelques passages de leurs lettres. Je pense que vous comprendrez l'intérêt de cette correspondance, bien sûr pour des Français, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas de culture française. J'avais l'habitude aux États-Unis de dire que cette histoire, c'est autant on emporte le vent, version française. C'était ma façon de faire comprendre que le grand bouleversement de la Révolution française est au centre de l'histoire. Avant la Révolution, en 1777, la comtesse de Sabran vit dans un magnifique hôtel particulier, construit par le célèbre architecte Mathurin Cherpitel, rue du Faubourg Saint-Honoré, avec de grands jardins qui donnent sur les Champs-Élysées. Une vingtaine d'années plus tard, les amants, devenus mari et femme, habitent en Pologne, dans une petite maison que Boufflers construit lui-même. Au printemps de 1798, il y a une lettre de Boufflers où il déclare avoir enfin découvert comment fabriquer des briques. 6 mois plus tard, quand il fait moins 25, Madame de Boufflers écrit à son fils que les murs de la maison tombent. La méthode n'était pas la bonne. Il n'avait pas vraiment compris comment faire. Alors, elle fait cette observation et voilà ce qu'elle ajoute ensuite. Il y a une sorte de volupté attachée au malheur. C'est de ne pas s'en laisser accabler. La lutte qui s'établit entre lui et nous donne de courage. À mesure qu'on est moins content du sort, on n'est plus de soi. C'est donc mon unique occupation ici, cher petit, où je manque encore de tout, où grâce au chevalier, notre pauvre maison est toujours remplie d'une quantité de gens que je ne connais pas, sans compter Madame Dessalles, dont la société m'est assez douce. Nous donnons à tout ce monde-là souvent un dîner de carottes, de panais et de choux, accompagné d'un pain bien noir et avec lui de l'eau bien fraîche, et un bon feu qui finit par nous rendre à tous le cœur gai quand le dîner est desservi. Recommençons, et cette fois au début. Éléonore de Jean de Monville, future comtesse de Sabran, est née en 1749. Élisabeth Vigée-Lebrun a fait un portrait d'elle au milieu des années 1780. Il y a aussi un buste par Houdon qui date de la même époque. Dans le portrait, on voit une jolie jeune femme sensible avec de grands yeux. Le buste, c'est encore autre chose. Dans une étude récente sur Houdon, on trouve cette observation. C'est la seule œuvre où l'artiste est illuminé le visage d'une femme, de cette étincelle, de ce jaillissement d'intelligence, de cet éclat dans les yeux dont il a su animer les bustes de Diderot et de Voltaire. La comtesse, c'était vraiment quelqu'un. Sa vie commence dans le malheur. Sa mère est morte en lui donnant naissance. Elle a une sœur aînée qui est belle, mais comme on dirait aujourd'hui, handicapée mentale. Le père se remarie et la belle-mère, véritable marâtre digne des contes de fées, montre une aversion pour les deux fillettes qui sont recueillies par leur grand-mère maternelle. Quand Éléonore a 19 ans, elle choisit elle-même son mari, un vieil ami, le comte Joseph de Sabran. Il a 66 ans. Elle se comporte avec autant de sagesse après le mariage qu'avant, car elle sait apprécier à sa juste valeur la gentillesse, la bonté du comte Joseph. Deux enfants naîtront, un garçon et une fille, prénommés Elzéa et Delphine d'après les deux saints de la famille de Sabran. En 1775, le jour qui précède le sacre de Louis XVI, Joseph de Sabran meurt. Deux ans plus tard, la jeune veuve s'installe dans l'hôtel rue du Faubourg Saint-Honoré. Et un jour, au mois de mai, le prince de Ligne lui présente un homme très recherché dans la vie mondaine parisienne, le chevalier de Boufflers. Stanislas Jean de Boufflers est le fils cadet de la marquise de Boufflers qui est connue comme la maîtresse du roi Stanislas à Lunéville. Il n'y a pas véritablement de bons portraits de Boufflers, malheureusement. Il y en avait bien sûr au XVIIIe siècle, mais nous ne les avons plus. Ce que je vous conseille donc, c'est de vous créer une idée de l'homme à partir de ses écrits. C'est véritablement ce qu'il y a de mieux. Comme Éléonore, Stanislas Jean a une enfance solitaire. Les 9 premières années de sa vie, il est à la campagne, abandonné aux domestiques, qui font peu attention à lui, car c'est le cadet. Il arrive à Lunéville en 1747. Ce sont les années où, grâce au roi Stanislas, qui est bien sûr beau-père de Louis XV, Lunéville devient l'une des capitales intellectuelles de l'Europe. Le roi et son entourage ne tarde pas à remarquer que ce petit garçon, qui écoute tout, qui n'oublie rien, qui s'exprime fort bien, a une intelligence hors du commun. Lui aussi a une étincelle dans les yeux. À 19 ans, il compose un article pour l'Encyclopédie. À 23 ans, il rédige déjà un conte philosophique à l'Aline Reine de Golconde, qui sera tout de suite l'objet d'éditions innombrables. Malgré cette grosse réussite littéraire, Stanislas Jean choisit la carrière militaire. Il est jeune et n'a pas envie de passer ses journées à noircir des feuilles de papier. Donc, quand un jour au mois de mai 1777, ces deux personnes se trouvent l'une en face de l'autre, l'attirance est réciproque. Mais la comtesse est méfiante. Boufflair n'est jamais à court d'idées. Il se propose comme professeur de latin. Elle accepte et il commence un échange de lettres. De simples bavardages, bien sûr. Voici un passage d'une lettre de Boufflair, datée du mois d'octobre 1780, qui vous montrera la nature de cet échange après 3 ans. Écrivez-moi, ma chère fille, envoyez-moi des volumes. Ne relisez jamais ce que vous aurez écrit. Ne songez aucune des règles de l'art d'écrire. Ne craignez ni de vous répéter, ni de manquer de suite. Soyez tantôt triste, tantôt gai, tantôt philosophe, tantôt folle, suivant que vos nerfs, vos remèdes, votre caractère, votre humeur vous domineront. Vous n'avez pas besoin de me plaire. Il faut m'aimer et me le prouver encore plus que me le dire. Il faut, pour notre bien commun, que vos idées passent continuellement en moi et les miennes en vous, comme de l'eau qui s'épure et qui s'éclaircit quand on la transvase souvent. Vous ne serez pas surpris d'apprendre, je pense, que quelques mois plus tard, ils vont poursuivre ces échanges dans le lit bleu de la comtesse. Voici comment elle s'exprime une année après ce grand événement. « Non, mon enfant, je n'ai que faire de ton illusion. Notre amour n'en a pas besoin. Il est né sans elle et il subsistera sans elle. Car ce n'est sûrement pas l'effet de mes charmes, qui n'existaient plus lorsque tu m'as connu, qui t'a fixé auprès de moi. Ce n'est pas non plus tes manières de huron, ton air distrait et bourru, tes salés piquantes et vraies, ton grand appétit et ton profond sommeil quand on veut causer avec toi, qui m'ont fait t'aimer à la folie. C'est un certain je ne sais quoi qui met nos âmes à l'unisson, une certaine sympathie qui me fait penser et sentir comme toi. Car sous cette enveloppe sauvage, tu caches l'esprit d'un ange et le cœur d'une femme. Cela aurait pu être la fin de l'histoire s'ils avaient pu s'épouser comme ils le voulaient. Ils auraient vécu au moins pendant un certain temps un bonheur précieux et banal. Qu'est-ce qui empêche donc le mariage? Les revenus de Boufflair sont ecclésiastiques. S'il quitte l'ordre de Malte pour se marier, il perd ses revenus. La comtesse est riche, mais son patrimoine doit revenir à ses 2 jeunes enfants. Boufflair, homme d'honneur, refuse donc de l'épouser avant d'avoir trouvé une autre source d'argent. En 1784, le chevalier de Boufflair reçoit son brevet de maréchal de camp. Pendant les dernières années du règne de Louis XVI, il est beaucoup plus difficile de trouver un poste que d'accéder à la promotion. Boufflair accepte donc le premier commandement qui se présente dans son grade. En octobre 1785, il est nommé gouverneur du Sénégal. Il fera 2 séjours en Afrique en 1786 et en 1787. Pendant ces 2 absences, les amants promettent de s'écrire tous les jours. Mais l'acheminement du courrier entre la France et l'Afrique est bien aléatoire. Il faut attendre le départ d'un bateau avant de pouvoir expédier un paquet. Et le plus souvent, les lettres expédiées d'Afrique passent par Saint-Domingue avant de revenir en France. En 1786, la comtesse de Sabran attend plus de 6 mois avant de recevoir le premier paquet. Elle continue pourtant à remplir page après page de son écriture pour ne pas manquer à sa promesse. Sur quelques-unes de ses feuilles, on voit encore les traces de ses larmes. 15 ans plus tard, elle relira ses propres lettres. Elle va même les recopier. En 1801, Les souffrances de l'absence sont loin. Boufflers est à côté d'elle. En relisant, elle voit, j'en suis sûre, ce que nous voyons aujourd'hui. Une série d'images inoubliables d'un bonheur éphémère, comme celui du jour où Marie-Antoinette donne un baiser au petit Elzéar sur ses deux jolies petites joues couleur de rose. En juillet 1787, Madame de Sabran marie sa fille Delphine à Armand de Custine, le fils d'Adam-Philippe de Custine, celui qui deviendra sous la Révolution le général Custine. Voici ce qu'écrit Madame de Sabran la veille du mariage. C'est demain le grand jour qui doit fixer à jamais la destinée de ma pauvre petite Delphine. Si l'on peut compter sur le bonheur, j'ai tout lieu de croire qu'elle sera heureuse. Mais quand je pense à tous les ingrédients qui doivent entrer dans la composition de ce bonheur, à la difficulté de les rassembler, à cette multitude de circonstances qui viennent se jeter tout à travers de cette belle harmonie, comme les comètes au milieu du système du monde, pour en déranger l'ordre et faire naître des orages. Je tremble et je vois qu'il faut beaucoup donner au hasard telle précaution que nous prenions pour l'enchaîner. Moins de 7 ans plus tard, Armand de Custine sera guillotiné. En Afrique, Boufflers décrit les dangers de toutes sortes qui l'environnent, les paysages grandioses qu'il découvre. Nous sommes au calme, à la vue du plus beau paysage des 4 parties du monde. Nous voyons le cap de Sierra Leone, qui s'élève plus haut que toutes les montagnes d'Ardennes, couvert de palmiers et d'autres arbres toujours verts. Il semble que la nature se soit plus rassemblée, loin de tout, tout ce qu'elle peut porter de plus charmant, comme les grands seigneurs qui se plaisent à prodiguer les ornements dans les petites maisons au fond des quartiers les plus ignorés. Jamais personne de nous n'a vu de plus grands arbres, de plus belles verdures, des vallons plus riants, des enfoncements mieux dessinés. On navigue entre des montagnes à perte de vue et des plaines immenses dans une rivière d'argent qui semble être une ligne de démarcation entre les deux sols les plus différents. C'est l'époque de la traite des Noirs. Boufflers propose au ministre de la Marine un nouveau système colonial. Pourquoi transporter de malheureux esclaves dans le Nouveau Monde, demande-t-il, quand il suffit d'apprendre aux Africains à cultiver le beau pays qui les a vus naître? Les Européens feraient ainsi du commerce en toute tranquillité de conscience. Boufflers n'est pas le seul à être séduit par cette belle logique. Pendant les dernières années de l'Ancien Régime, ce sont les anti-esclavagistes qui proposent des colonies agricoles en Afrique. Le ministre de la Marine trouve les idées de Boufflers intéressantes, mais un peu prématurées. Il y a tant d'argent à gagner avec la traite des Noirs, et nécessité économique oblige. Boufflers, frustré, quitte donc l'Afrique. Peu avant son départ, et le regard de son jardin à l'île de Gorée, il pense aux espoirs qu'il avait en arrivant, et il écrit ceci. Rien de tout cela n'a eu lieu. Mes fleurs, mes légumes, mes arbres, mes jardiniers sont morts. Mon jardin est le plus triste des déserts de l'Afrique. Encore voit-on là une nature inculte, mais riche et pour ainsi dire fière de sa virginité. Au lieu qu'ici, il y a un reste de culture abandonnée, de mauvaises herbes entremêlées de quelques plantes d'Europe malvenues. De retour en France, Beauflaire participera à la lutte contre l'esclavage. Il sera membre de la Société des Amis des Noirs, la première société anti-esclavagiste française. Élu à l'Académie française en 1788, il commence son discours de réception avec une attaque en règle contre les malheurs de l'esclavage. Et en janvier 1789, il présente à l'Académie française un discours sur les Africains, que certains esclavagistes refusent de considérer comme des hommes. « Oui, ce sont des hommes, déclare-t-il, et bien meilleurs que ceux qui entreprennent de les rabaisser. » En avril 1789, le chevalier de Boufflers est élu député aux États généraux par la noblesse de Nancy. Pendant les élections en Lorraine, les trois ordres travaillent en harmonie, en bonne partie grâce à Beauflaire, qui est l'orateur le plus écouté. En mai et en juin, dans la chambre de la noblesse, il prend souvent la parole pour encourager le ralliement au tiers, mais on l'écoute moins. La plupart des députés de la noblesse adhèrent encore à une conception de l'honneur peu favorable au compromis. Madame de Sabran elle-même est horrifiée par les prises de position de son amant. « Je meurs des fois, écrit-elle, en songeant que la plus chère partie de moi-même peut prendre un parti qui me fasse rougir. » Et puis un peu plus tard, elle ajoute « Le plus grand malheur de cette révolution, c'est la division qu'elle sème dans les sociétés, les familles, les amis, les amants même, car rien n'est exempt de cette horrible contagion, et adieu le charme de la vie. » La violence de l'été va effrayer bon nombre des députés. Le 18 juillet, la foule menace de pendre deux hussards aux portes même de l'Assemblée. C'est Beauflaire qui donne l'alerte. Le 7 août, après avoir passé la journée à écouter de longues descriptions de tous les troubles dans le royaume, Beauflaire écrit à Madame de Sabran. Beauflaire écrit donc à Madame de Sabran. « Il me faut sortir d'ici. Et quand je dis d'ici, c'est de Paris, c'est des villes, c'est des lieux habités par ces méchants animaux qu'on appelle si improprement des hommes. Vois, ma femme, si effectivement tu auras le courage de venir, de temps en temps, partager l'asile de ma vieillesse et de ma misère. Si tu prendras quelque plaisir à y passer des heures tranquilles, dans les occupations, dans les conversations, dans les méditations qui nous conviennent, vivant l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, l'un par l'autre, oubliant tout le reste, et remerciant peut-être le sort de nous avoir envoyé des malheurs qui nous rendront si heureux. » Le 18 août, elle répond. « Viens vite, mon ami. Achève de faire tous tes sacrifices. Donne tout, jusqu'à ta chemise. Avec moi, tu n'auras besoin de rien. Que de jours heureux nous passerons encore. Si le bonheur est sur la terre, crois-moi, il sera dans notre petit ménage, de compagnie avec l'amour. Oui, l'amour. Car toute grand-mère que je suis, il brûle mon âme. Je le sens circuler dans mes veines, précipiter les battements de mon cœur. Il me fera survivre à moi-même. Qu'importe que la vieillesse vienne glacer tous mes sens, c'est mon âme qui t'aime. Mon amour sera immortel comme mon âme. Quand elle se séparera de mon corps, c'est en Dieu que je t'aimerai, s'il y a un Dieu, ou dans l'univers s'il n'y a qu'un univers. L'être que j'animerai ensuite recherchera avec ardeur celui que tu animeras, et peut-être cela fera-t-il le plus joli roman du monde. Nous nous retrouvons tous les deux à 20 ans pour sacrifier de nouveau à l'amour. » Mais quel délire m'emporte, c'est un être qui en est la cause. Elle me retrace des idées qui m'ont bien des fois charmée dans mes châteaux en Espagne. Il n'y a plus que cela de solide à présent. Ainsi, bâtissons-en, bâtissons-en sans scrupule. Comme toujours, âme d'honneur, fidèle à ses devoirs, Boufflers ne quitte pas l'Assemblée. Et les membres du comité d'agriculture et de commerce, où il rédige de nouvelles lois, qui assurent aux inventeurs la propriété de leurs découvertes. Il prépare également la création du Conservatoire national des arts et métiers. À la Constituante, Boufflers se range parmi les modérés, ce qui veut dire qu'il fait partie de ceux qui sont attaqués par la droite aussi bien que par la gauche. Boufflers et Madame de Sabran émigrent en 1791. Elle, en mai, lui, quelques mois plus tard, après la clôture de l'Assemblée constituante. Ils s'établissent à Rheinsberg, chez le prince Henri de Prusse. C'est le frère du grand Frédéric. En 1792, ils pensent avoir trouvé un asile. Ils pensent toucher au repos, mais non. Bien sûr que non. Et ce n'est pas uniquement à cause, ça va être effectivement l'époque la plus difficile, la plus éprouvante de leur vie, et pas uniquement à cause des nouvelles qui arrivent de leur patrie. Boufflers est constituant, c'est-à-dire c'est un traître, aux yeux des contre-révolutionnaires comme l'évêque de Laon, Monseigneur de Sabran. Louis Hector Honoré Maxime de Sabran, né en 1739, une année après Boufflers, et le neveu à la mode de Bretagne du comte Joseph. Ce digne prélat ne reconnaît qu'une règle de conduite, les antiques lois de l'honneur. Évidemment, il considère que Madame de Sabran doit envoyer son fils, Elzéar, à l'armée des princes, qui s'assemble aux frontières de la France pour défendre la monarchie. Or, le jeune homme a une façon de voir qui est très peu militaire. Voici ce qu'il écrit à un de ses amis, après avoir assisté aux manœuvres de l'armée prussienne. « C'est un spectacle superbe comme militaire. La discipline la plus parfaite, l'ensemble le mieux observé, les mouvements les mieux combinés, la plus grande promptitude d'exécution. Il ne reste rien à désirer. Mais, aux yeux du philosophe, le charme se dissipe. Cette exactitude, cette unité de rapport, ce concert universel, ne paraît plus que la perfection de l'imperfection des hommes. L'homme, borné dans tout, n'est parfait que dans l'art de se détruire, et d'outrager la nature. Mon ami, qu'ils sont horribles, les hommes. » L'évêque ne se désarme pas. Madame de Sabran doit envoyer son fils, Elzéar, au comte d'Artois. Cette démarche, dit l'évêque, cette démarche aura l'avantage de bien manifester vos sentiments, qui ne peuvent être suspects à vos vrais amis, mais qui peut-être ne sont pas jugés si favorablement par les indifférents, à raison de la société dans laquelle vous vivez, qui est soupçonnée de quelques penchants pour la démocratie et sa sœur la philosophie. J'ai beau me récrier contre l'injustice de cette opinion, l'on ne veut pas me croire, et je ne peux venir à bout de la détruire. C'est bien sûr, voilà la voix de l'évêque. Pour lui, ce serait tellement préférable, n'est-ce pas, si elle ne vivait pas dans cette société, c'est-à-dire avec Boufflers. Pendant ce temps, Boufflers est en train de dire au roi de Prusse que cette guerre qu'on entreprend avec tant de confiance ne sera pas si facile à bien finir. En 1792, Madame de Sabran refuse d'envoyer son fils, mais elle a du mal à justifier ce refus. En 1793, elle trouve enfin son langage. Je vois avec quelque surprise, je vous l'avoue, que malgré la marche contraire à nos espérances que prennent les événements, Vous n'ayez pas encore changé de projet au sujet d'Elzéar. Sans doute vous auriez parfaitement raison si les choses prenaient la tournure que nous devrions naturellement attendre. Mais vous me parlez de la France qui s'écroule, de l'opinion publique qui ne peut exister au milieu d'une révolution semblable, où chacun a le droit d'être juge dans sa propre cause. Je suis bien loin, je vous assure, de me repentir du parti que j'ai pris l'année dernière pour mon fils. Malgré tout ce qu'en peuvent dire un petit nombre de personnes qui ne sont pas encore revenues de leurs trop douces illusions. Il ne faut pas croire, avec tant d'autres, que je suis aveuglée et retenue uniquement par ma tendresse maternelle. Ce sont des puissances ennemies qui vous font la loi. Vous servez les ennemis naturels de votre patrie. Réfléchissez bien à cela, mon cher neveu, car c'est sur cette pensée qui fondait ma répugnance invincible pour que mon fils augmente le nombre des dupes. C'est une femme lucide. Cette lucidité va la rapprocher de plus en plus de Boufflers, même sur le plan politique. Au mois de mai 1787, il se marie. Il n'y a plus de patrimoine à conserver, ni d'un côté ni de l'autre. La Révolution a tout confisqué. La cérémonie a lieu à Breslau, parce qu'ils partent vers la Pologne. Le roi de Prusse leur a accordé une colonie au village de Wimislau, dans la région appelée la Prusse méridionale, qui appartient à la Prusse depuis le deuxième partage de la Pologne en 1793. Les terrains sont un don. Mais cette générosité ne suffit pas. Les colons doivent construire des maisons, mettre les terres en valeur, acheter du bétail, trouver de la main-d'œuvre, etc. Frédéric Guillaume II a prévu l'exemption des colons des impôts pendant un certain nombre d'années. Mais le directoire voit d'un mauvais œil ces faveurs accordées aux émigrés français et Frédéric Guillaume III, qui succède à son père au mois de novembre 1797, est moins accommodant. Les Boufflers doivent prendre de jeunes élèves polonais en pension pour augmenter leurs revenus et ils doivent effectivement payer les impôts avec une partie de l'argent qu'ils reçoivent en tant que membres de l'Académie de Berlin. Ils ne meurent pas de faim, c'est déjà quelque chose. En 1779, un de leurs associés, l'abbé Dara, écrit ceci à Elzéar. Cette année, le jardin a produit d'excellents légumes et en assez grande quantité, jusqu'à même de bons melons, beaucoup de fraises et des choux d'une grandeur rare. C'est mieux qu'en Afrique. Cette année-là, pendant les longues soirées, Boufflers commence à rédiger un ouvrage métaphysique et, à la lumière des chandelles, les époux discutent. Madame de Boufflers écrit souvent à son fils Elzéar, qui est établi à Vienne, et ses lettres nous permettent d'assister à quelques-unes de ses conversations. Le monde est très mobile, mon enfant. Nous établir au milieu de lui un système de stabilité que le moindre événement peut déranger, sans que nous en soyons d'accord. Et alors nous nous trouvons dans des embarras étranges et dans une discordance de choses qui nuit autant au bonheur que des tons faux nuisent à l'harmonie. Marchons avec le siècle, mon ami, au milieu des roses et des épines. Il faut avancer. On ne peut pas reculer. Une force invincible nous pousse. Savons-nous ce qu'elle veut? Nous marchons en aveugle, tâchons seulement de nous soutenir l'un l'autre afin de ne pas tomber. Les lettres à Elzéar sont absolument magnifiques. Le 19 primaire, Bonaparte prend le pouvoir. Delphine, qui est restée à Paris, demande aussitôt la radiation des époux Boufflers de la fameuse liste des émigrés. Et en janvier 1800, Fouché, ministre de la police, autorise le couple à rentrer dans sa patrie. À Vienne, Elzéa apprend les nouvelles. Il écrit tout de suite à son beau-père. Voici la réponse de Boufflers. Vous blâmez notre retour en France et vous voudrez au moins retarder celui de Madame votre mère. Vous me chargeriez là, mon cher Elzéa, d'une commission bien dure et bien difficile. Vous me parlez d'employer mon autorité. Je me fais gloire de n'en point avoir sur ma femme. Je l'ai abdiquée avant d'en être investie. Je n'ai pas plus de pouvoir sur ma femme que sur moi. Entre nous, non seulement tout se fait, mais encore tout se veut en commun. Voilà une déclaration que je suggère à tous les maris dans le monde moderne. C'est un texte que j'ai trouvé avec un bonheur indescriptible, disons, dans les archives de la famille de Saint-Bran. Mais quelle façon de s'exprimer pour cette époque-là. Nous sommes en 1800, une telle déclaration. Quelle vie de couple. Je trouve que, disons, comme pour expliquer la nature des rapports de ces deux personnes, il n'y a rien de mieux que, disons, que ce passage-là, qui est quand même 23 ans après leur première rencontre. Alors, les époux décident, pour leurs propres raisons, que Boufflers va partir le premier. Il a une succession à recueillir en France, la succession Villois. Madame de Boufflers reste en Pologne pour vendre leur terrain et pour convaincre Elzéa de rentrer. Ce n'est pas chose facile. À Wimislo, des coquins, comme elle le dit, cherchent à s'approprier le terrain sans le payer. Et à Vienne, Elzéa est tombée sous l'influence de l'évêque de Laon, qui veut empêcher le retour de Madame de Boufflers aussi bien que celui de son fils. L'évêque n'est pas un adversaire à dédaigner. Même Boufflers se demande par moments si son épouse le suivra. Pendant plus de 6 mois, la mère et le fils débattent, se déraillent. Il n'y a pas de lettre échangée entre Madame de Boufflers et l'évêque, mais elle sait qu'en s'adressant à son fils, elle s'adresse également à l'évêque. Elle s'exprime parfois avec une violence de langage digne du théâtre classique. « Tu es devenue bête, Elzéa, esquipillée, dure et insensible comme une pierre. Ainsi, je n'ai plus qu'à mourir, car je n'ai plus de fils. » C'est-à-dire qu'elle ne reconnaît plus son fils. Il faut qu'il redevienne lui-même en se détachant de l'évêque. Le 26 décembre 1800, Madame de Boufflers arrive à Paris avec Elzéa. Elle a aussi vendu le terrain. L'évêque ne reverra plus jamais ni la mère ni le fils, qu'il a beaucoup aimé à sa façon. Je me demande même s'il n'a pas trop aimé la mère. Il y a, avant le mariage, des passages dans les lettres de l'évêque à Madame de Sabran qui me semblent excessivement affectueux. Vous allez juger dans mon dernier volume. L'évêque mourra en 1811 en Pologne. En France, Boufflers touchera très peu d'argent de la succession Villerois, mais Bonaparte accorde une pension à l'ancien maréchal de camp qui gagnera aussi de l'argent avec ses publications. Des contes, des discours académiques, des articles, l'ouvrage métaphysique, le libre arbitre, et puis plusieurs éditions de ses œuvres complètes. Pendant ces dernières années, Boufflers sera la cible des journalistes contre-révolutionnaires qui ne voient en lui qu'un représentant du monde philosophique. Mais ces conflits-là, Boufflers en a bien l'habitude. En 1803, le couple achète une maison de campagne à Saint-Léger, aux portes de Saint-Germain-en-Laye. Voici ce que Boufflers a écrit en 1806 à une vieille amie de sa mère, Madame de Rival. En perdant mes avantages, mes biens et mes espérances, J'ai vu que je n'avais perdu que des apparences et que la réalité me restait. Tout notre véritable avoir consiste dans la pensée et le sentiment. Et à cet égard, chacun met au-dedans de lui une vraie mine, plus ou moins riche. Vous parlerai-je à présent de ma demeure ? J'en ai deux, l'une à la campagne. Mais c'est à peu près comme celle du rat de ville et du rat des champs, c'est-à-dire de trous. Quant à notre maison de campagne, elle conviendrait mieux à un vicaire qu'à un curé. Mais elle a, du moins à nos yeux, le mérite de nous appartenir. Tout notre domaine consiste dans un assez grand jardin fruitier et potager, qui promet beaucoup au printemps et qui, selon la triste coutume de la nature, tient peu en automne. Mais ce jardin, tantôt béni, tantôt maudit, nourrit ses maîtres et même il les abreuve, car j'y ai une petite vigne avec un petit pressoir, et nous avons le bon esprit, et peut-être la bonne bêtise, de trouver notre vin le meilleur des environs de Paris, à plus de 20 lieues à la ronde. Dans le jardin, il plante un chêne et un tilleul, en souvenir de la fable d'Ovide, Philémon et Baucis. Boufflers meurt en 1815, son épouse en 1827. Pendant les années 1990, moi-même, je vivais en Californie, dans une petite maison en bois, dans les montagnes entre la Californie et le Nevada. Les biches se promenaient autour de la maison, les ours aussi, et moi je traduisais les lettres de Chevalier de Boufflers et de la Comtesse de Sabran, que je donnais aux personnes que je côtoyais. Un jour, j'ai donné mon ouvrage à une dame qui tenait une boutique dans un village au pied des montagnes, sur la route 41. Son mari était dans un fauteuil roulant et elle venait de perdre leur fils unique, mort d'un cancer à 35 ans. Un mois plus tard, je suis passée la voir. « Eh bien, madame, avez-vous eu le temps de regarder ?»« Oui, madame, » m'a-t-elle dit. Je lis ses lettres tous les soirs. Je les lis comme je lis la Bible. Et je crois, est-ce que j'ai le temps de donner encore de textes ou oui ? C'est bon ? Alors donc, j'ai donc deux textes que je vais ajouter pour le plaisir de la chose. D'abord, une lettre de Boufflers, datée du 17 février 1786. Bien sûr, il est en Afrique. « Quand te reverrai-je donc, chère femme ? Il y a au-dedans de moi un espace dont je ne sais pas la vraie mesure, mais je sais qu'il y a place pour toutes sortes de choses, passées, actuelles, futures, présentes et absentes. Cet espace se nomme imagination. J'aime à m'y promener parce que souvent je m'y rencontre avec toi. Mais souvent aussi, je t'y vois comme une figure céleste, placée dans un éloignement énorme que la pensée seule peut franchir. Malgré tout cela, je ne me décourage point. » Pardon, je crois que je viens d'avoir un petit trou de mémoire. « Malgré tout cela, je ne me décourage point. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous allons l'un vers l'autre, comme le fer et l'aimant. Je sens que tous les obstacles céderont. Je sens que chaque instant nous rapproche. Et quand une fois je me livre à mes rêveries, j'ai, comme les saints dans leurs extases, un avant-goût des plaisirs célestes. » Je dirais, je crois que vous sentez très bien que Boufflers est poète avec ce genre de texte. Je vais maintenant terminer en vous donnant le même texte en anglais. When, my dear wife, will I ever see you again? There is in the structure of my soul a vast open space. Its dimensions quite escape me. I only know that there's room for all kinds of things, be they past, present, or future, near or far. In this place, which is my imagination, often I see you and together we go walking hand in hand. There are times you seem a celestial figure, so far away that only thought itself can touch you. Even then I am not discouraged. As a magnet is drawn to iron, so am I drawn to you, and every moment brings me closer. Saints in their ecstasies taste the pleasures of paradise, and I too come close to heaven in my mind. Thank you.